Je suis Anne Pios, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
Je me suis retrouvée dans une phase de la guérison où ça allait beaucoup mieux, mais où je me suis beaucoup posé la question « t'es guérie, t'es pas guérie, t'es guérie, t'es pas guérie ». Je me laisse le droit à ce que ce processus dure le temps qu'il a besoin de durer. En fait, je pense que d'une certaine façon, l'acte alimentaire ne peut pas être quelque chose de complètement simple. Il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, on arrive à la racine du rapport au corps. Il faut accepter que mon corps, après 2 enfants, il ne sera jamais celui que j'avais avant. Peu importe le poids que je ferai, le sport, l'alimentation, mon corps est en train de vieillir, c'est inévitable. L'apparence des gens dans la vie, c'est un truc que je ne trouve pas très important et je ne veux pas que ce soit quelque chose d'important. Le curseur de la guérison, je pense qu'il est vraiment assez propre à chacun. C'est vraiment possible d'avoir ce qu'on veut dans les placards et de se sentir incontrôlable à l'égard de rien du tout. Ça vaut quand même tellement le coup d'être libre sur le plan alimentaire.
Bienvenue dans l'épisode 111 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». En mars dernier, je suis allée prendre des nouvelles de Jeanne. Jeanne avait témoigné de son parcours avec la thérapie d'alimentation intuitive dans l'un des premiers épisodes du podcast, l'épisode 18, qui était sorti il y a 3 ans, au mois de juillet 2021. Jeanne nous avait déjà donné quelques nouvelles dans l'épisode 100 et elle m'a proposé de développer plus en détail la suite de son processus. Elle a aujourd'hui bien plus de recul sur son parcours de guérison des troubles alimentaires et vous imaginez bien que la vie lui a proposé différentes étapes et défis durant ces 3 dernières années, en particulier l'arrivée d'un second enfant. C'est ainsi l'occasion pour nous d'entendre l'expérience d'une personne sur le long terme. Qu'est-ce que la guérison ? À quoi s'attendre ? Comment Jeanne vit-elle aujourd'hui sa relation avec son alimentation et son image corporelle ? Nous avons également eu l'occasion de revenir sur certaines idées reçues concernant la thérapie d'alimentation intuitive, qui, rappelons-le, n'est pas une proposition de manger selon son intuition, qui serait d'ailleurs de nous gaver de produits transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, si vous voyez ce que je veux dire, mais une réelle démarche de thérapie qui propose un travail global, tant sur sa relation avec l'alimentation que sur la relation à soi-même. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour Anne.
J'ai presque envie de dire rebonjour, même si ça fait déjà 3 ans qu'on s'était vu sans se voir, mais qu'on s'était vu la première fois pour enregistrer l'épisode, si je ne me trompe pas, 18 de la pleine conscience du pouvoir, dans lequel tu étais venue apporter ton témoignage de processus en alimentation intuitive. Tu nous avais refait le chemin depuis ta naissance. Hein, moi, j'étais vraiment marquée par ton histoire des bébés, en fait, tout bébé, où il y avait des questionnements autour du poids. Et puis, il y a quelques temps, je cherchais des nouveaux témoins. Et puis, tu m'as proposé de venir donner des nouvelles. Et j'ai trouvé que c'était une super proposition. Parce que 3 ans ont passé, donc, depuis cet épisode 18. 3 années où tu as vécu, comme nous toutes et tous. Hein, et où ton processus s'est poursuivi. Donc, je suis ravie aussi que tu m'accueilles chez toi aujourd'hui.
Bienvenue.
La première fois qu'on se rencontre en vrai.
Exactement.
Donc c'est chouette, hein. Tu me disais en arrivant et je partageais ça aussi, je pouvais moi aussi avoir l'impression de te connaître mais sans t'avoir jamais rencontré, donc c'est vraiment chouette. Vive le présentiel quand même. Hein.
Oui, c'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal. J'ai déjà envie de te demander comment tu vas, Jeanne.
Ça va plutôt bien. En tout cas, sur le plan alimentaire, ça va plutôt bien. Donc, je ne t'ai pas proposé de retémoigner pour revenir en arrière en disant ça ne va pas du tout ou attention, l'alimentation intuitive, c'est nul ou
méfiez-vous.
Les TCA, c'était super. Non. Le processus a continué. Je pense que si je t'ai contactée, bon, je ne sais pas, ça peut sembler un peu narcissique aussi. C'est sûr que. Et je pense que te l'avais peut-être déjà dit à l'époque, ou peut-être dans l'épisode 100, où j'avais aussi
laissé un
message.
Oui, tu avais donné des nouvelles, oui.
Je trouve que c'est assez génial de témoigner. Moi, je sais que quand j'ai commencé le processus d'alimentation intuitive, etc., j'étais contente de lire des témoignages.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas trop où on va et qu'on a besoin d'entendre des gens qui se sont mis dans le processus ou dans un autre processus, et en tout cas d'essayer de comprendre où est-ce que ça va nous mener, de comprendre que les interrogations qu'on a, les difficultés qu'on rencontre, on n'est pas seul à les traverser.
Mm-hmm.
C'est ce qui m'avait moi aussi poussée à témoigner, à ouvrir mon compte Instagram pour parler de tout ça.
Mm.
Mais je trouve aussi que témoigner, c'est très thérapeutique. Parce que ça permet de faire un peu le point, ça permet de formuler, de verbaliser des choses. Et moi, j'alimente quasiment plus mon compte Instagram depuis presque quand on a fait enregistrer l'épisode ensemble.
Ouais.
J'ai quand même encore alimenté les choses pendant à peu près 6 mois, mais depuis la naissance de ma deuxième fille, globalement.
Ben oui.
À la fois parce que très absorbée, donc j'ai oui. deux filles qui sont quand même jeunes. Et puis parce que comme ça allait mieux... J'avais envie de moins penser à la nourriture et donc du coup de moins en parler et de vivre et de passer à autre chose. Et puis aussi, c'est vrai que quand ça va mieux, ça c'est quelque chose que j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes, on a moins de choses à dire en fait. Il y a des moments, je sais pas par exemple si t'as vu que Parlons TCA a fermé son compte. Alors, je crois qu'elle laisse sa page accessible, mais elle disait que... ça lui parle plus, justement, les TCA à elle.
Et
c'est vrai que par moments, on oublie presque les pensées qu'on a pu avoir quand on souffrait de TCA. Du coup, je suis pas sûre que continuer à témoigner, sous n'importe quelle forme en tout cas, j'espère que mon témoignage ici sera quand même un peu utile, mais je me dis que par moments, si je le fais aussi là parce que t'es en face et que t'es thérapeute et que du coup, tu peux cadrer les choses, je sais pas si moi, ce que j'aurais à dire... pourrait pas presque être contre-productif pour des personnes qui souffrent, parce qu'il y a des moments, je pense que j'ai oublié presque ce que c'était que souffrir de TCA. Ce qui est une très bonne chose pour moi et un très bon message d'espoir pour ceux qui souffrent. C'est possible d'aller tellement bien qu'on en oublie certains mécanismes. Mais du coup, là, je suis assez contente de pouvoir faire le point parce que j'en parle pas beaucoup et que du coup, c'est un peu l'occasion. Donc, si ça peut être utile, c'est bien. Et pour moi, ça sera utile. Et c'est vrai que la seule chose, moi, qui m'a un peu manqué, justement, ces dernières années, en termes de témoignages que j'aurais pu écouter, de contenu existant, c'est... Je me suis retrouvée dans une phase de la guérison où ça allait beaucoup mieux, mais où je me suis beaucoup posé la question, t'es guérie, t'es pas guérie.
Ah.
Et j'aurais toujours pas vraiment dire si je suis guérie ou pas, mais presque. Ouais. C'est pas très important, en fait. Et du coup, j'ai peut-être envie un peu d'alimenter cette partie-là de la guérison. Il y a le processus intense de la thérapie quand ça va pas du tout ou quand... Même parce que moi, quand on avait discuté déjà il y a 3 ans, ça allait... J'avais repris une thérapie à un moment où ça allait quand même globalement mieux. J'étais moins dans les crises des TCA. J'avais par exemple plus de boulimie vomitive. Donc, c'était quand même moins les phases,
moins
la phase aiguë.
Mmh.
Mais bon, globalement, ça allait quand même pas. Mais il y a la phase de la thérapie où on est dans des exercices intenses, ça prend beaucoup d'énergie.
Oui.
Et puis en tout cas, pour moi, il y a eu toute une phase qui est peut-être même pas finie, où tout ça, ça décante et où on peut se laisser le temps. On met moins d'énergie dans ce processus-là parce que ça va déjà mieux et qu'on se sent bien. Et puis après, c'est un choix parce que j'ai vécu plein d'autres choses dans ma vie.
Mais oui.
Je me laisse le droit à ce que ce processus dure le temps qu'il a besoin de durer. Mais du coup... Il y avait des moments où je me suis un peu interrogée sur est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce qu'il faudrait que je retravaille plus certaines choses. Et d'une certaine façon, je me pose même encore de temps en temps ces questions-là, de plus en plus, je me dis que ça fait juste partie de la vie, en fait, de se poser questions.
Est-ce que ça ressemble pas à une question comme « je fais bien ou je fais pas bien ?»
Oui, complètement. Et c'est pour ça, je pense que d'une certaine façon, ça fait un peu partie de la vie, parce que... On grandit, j'allais dire. On évolue, on vieillit.
Mais oui.
On change.
Mais oui.
Notre vie change, notre quotidien change. Notre façon de voir la vie change. Et ça, de façon consciente ou inconsciente, ça fait bouger beaucoup de choses dans nos vies. Et je pense que Pour beaucoup, l'acte alimentaire, en réalité, est assez central. On a besoin de manger tous les jours. Ça demande une logistique, surtout quand on a des enfants.
Mais oui.
Donc, du coup, c'est quand même quelque chose d'assez central et sur lequel, au final, quand je peux discuter avec des gens, même qui n'ont jamais souffert de TCA, le quotidien a énormément d'impact, en fait, sur l'acte alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui perdent l'appétit parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ont oublié de manger ou parce que... au contraire, ils ont besoin de réconfort, donc ils vont manger ceci, cela. Enfin, bon, en plus, il y a la culture des régimes qui, bien sûr, ne nous aide pas à rendre les choses simples. Il y a aussi un contexte qui y avait un petit peu moins il y a 3 ans, mais un contexte énorme d'inflation qui rend aussi pour certaines personnes l'acte alimentaire compliqué parce que ça coûte cher. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui reste assez central. Donc, qu'on s'en rende compte ou pas, il y a des questionnements qui viennent autour de l'acte alimentaire. Et quand on a souffert de TCA, on a vite fait... de paniquer, alors même que c'est des questionnements. En fait, je pense que d'une certaine façon, l'acte alimentaire ne peut pas être quelque chose de complètement simple. Enfin, soit on est extrêmement riche et on peut, au dernier moment, dire « j'ai très envie de manger ça » et il y a, je ne sais pas, un domestique
qui le cuisine pour
nous. Qui peut le cuisiner en 2 minutes, mais il faut quand même avoir les produits disponibles.
Oui.
Enfin, bon, j'imagine que certaines personnes ont les moyens de ça. Mais sinon, pour le commun des mortels, ça demande, en fait, une certaine organisation et de temps en temps, de la frustration. On a envie de quelque chose. Je sais pas, même ma fille, en ce moment, me réclame des fraises et j'arrête pas de lui dire, bah, c'est un peu tôt, là.
Et oui,
même si on commence à en voir sur les étalages, c'est pas encore la saison des fraises. Bon, bah, voilà, du coup, il y a une certaine frustration parce qu'elle aurait bien envie de fraises. Une des choses que j'ai trouvé intéressante ces dernières années, c'est que je trouvais que je continuais à beaucoup penser, en fait, à beaucoup planifier, à beaucoup réfléchir. Et quand on souffre de TCA, on planifie énormément parce que « Ah, je vais au restaurant ce soir, donc je vais moins manger ce midi. » Et puis, j'ai mangé ça hier. Et j'ai fini par réaliser « Ok, c'est pas la même sorte de planification. » Là, c'est « Quel jour je vais faire les courses ? Qu'est-ce que vont manger les filles ce soir ?» Bon, voilà, on essaye aussi de faire des choix un peu éthiques. Donc, manger de saison, essayer de maintenir de la variété, de la diversité alimentaire, essayer d'avoir des produits frais, de pas trop recourir à des produits trop transformés. Tout ça, je sais que ce sont des choix que je fais pour des raisons éthiques, pour essayer d'avoir une variété, pour maintenir une sorte d'équilibre nutritionnel, avoir un peu tous les nutriments. Et non seulement je le programme pour moi, mais je le programme aussi pour mes filles.
Oui.
Avec, en plus, cuisiner pour des enfants, c'est de temps en temps des choses boudées.
Oui, c'est un challenge.
Être, voilà. Entre le moment où on s'est parlé et maintenant, j'étais enceinte, j'ai accouché, j'ai eu un bébé dont il a fallu diversifier l'alimentation, qui est enfin, là, on commence à être au bout de la diversification à 2 ans et demi, elle mange à peu près tout, je crois. Beaucoup de choses que je n'aurais jamais données à la première. Hein. La diversification du deuxième, c'est... Il faut lâcher prise.
C'est plus
faut
cool.
Pas souffrir de TCA, parce que, clairement, il y a des moments où sa façon de manger peut donner des sueurs froides. Donc, du coup, ça tient une place, en fait, énorme dans le mental. Et il y avait des moments où je me disais, mais en fait, tu mentalises encore beaucoup. Mais en fait, je ne mentalisais pas en tant que personne qui souffre de TCA. Je mentalisais en tant que mère, que consommatrice qui veut faire des choix éthiques. Même, par exemple, j'essaye plutôt de tendre vers plus de végétarisme. Alors, moi, je n'ai jamais été une grande viandarde. Même si j'en mange avec plaisir, mais voilà, j'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours, mais j'essaye plutôt d'essayer d'aller de plus en plus vers une alimentation végétale pour des raisons purement écologiques. Et ça aussi, c'est un challenge de se dire comment est-ce que je vais mettre les choses en place. Et en même temps, je pense que d'avoir fait tout ce parcours alimentaire me fait dire bah, ça prendra le temps que ça prendra. Il faut mieux que je me laisse plusieurs années plutôt que s'enlever la viande et puis finalement faire des compulsions au bout d'un mois. Donc, c'est pas du tout la même démarche aussi pour soutenir ce processus, encore une fois, qui est éthique, qui est pas restrictif, avec beaucoup plus de bienveillance, avec aussi simplement l'idée de dire on va d'abord rajouter des nouvelles recettes végétales et pas juste enlever la viande, parce que sinon, il y a juste un trou dans l'alimentation. Mais voilà, en fait, l'acte alimentaire, c'est quelque chose qui demande pas mal de mental.
Mais oui, d'énergie, de réflexion, de planification. Mais ce que tu nous expliques, c'est que bah, aujourd'hui, ça ne part plus du tout du même endroit, en fait. Ça part de valeurs, en fait, de choses qui sont importantes pour toi, que ce soit pour la planète, pour des choix éthiques, comme tu disais, ou même ça pourrait être des choix de santé en lien avec une diversité alimentaire, voilà. Mais ça n'a plus rien à voir parce que ça ne part plus de la restriction autour du poids, de la préoccupation du poids, de la silhouette, du contrôle pour le contrôle. Mais effectivement, dans le processus de guérison, ça peut éveiller un questionnement. Quand on est en plus une personne qui s'interroge et réfléchit beaucoup, du coup, on se pose des questions sur nos questions même, en plus. Et du coup, bah, de se dire, attends, mais là, c'est quoi qui parle en fait? C'est la maladie qui revient? C'est le contrôle? Pourquoi je contrôle? C'est quoi? Ben non, en fait.
Et ça, je pense que le plus difficile, c'est vraiment aussi d'intégrer la dimension santé dont tu parlais.
Oui,
parce que,
complètement.
Y a dans beaucoup de discours énormément d'ambivalence entre la santé, donc aussi consommer des aliments, si on peut. Bien sûr, je vais parler pour quelqu'un qui a le budget pour avoir l'alimentation qu'elle souhaite. Si je veux consommer des fruits et légumes, même bio, je peux le faire. Donc, il y a énormément d'ambivalence dans le discours qui est donné, un peu moins maintenant de la part, bien sûr, d'un certain nombre de professionnels de santé, entre manger équilibré, le fameux, moi je préfère dire varié, diversifié, manger des produits le plus brut, manger pas mal de fibres, donc notamment venant des fruits et légumes. Tout ça, c'est très bon pour la santé. Et puis, il y a un énorme amalgame qui est fait. Et puis, en plus, on va perdre du poids. Et puis, ensuite, on va être mince. Et ça, c'est forcément être en bonne santé. Bah, en fait, je trouve que le processus d'alimentation intuitive, qui est souvent pas compris là-dessus, pour moi, ça a été important, dans un premier temps, de m'affranchir totalement de ces règles nutritionnelles. Il se trouve que, là aussi, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'ai eu une bonne éducation alimentaire quand j'étais petite. Ma mère, elle cuisinait des produits bruts, elle allait au marché. J'ai toujours cuisiné avec elle. Donc, pour moi, ça fait partie de mon registre alimentaire. Et même dans le processus d'alimentation intuitive, j'ai toujours eu des envies de légumes. Après, j'en avais moins envie. Et ça, c'est des envies qui sont revenues. Dans le processus d'alimentation intuitive. Les fruits, pour moi, c'était... En fait, on répète sans arrêt 5 fruits et légumes par jour. Mais attention, pas trop de fruits.
Oui, ah oui.
Bah, donc, faudrait savoir. Non, mais quand même, les fruits, ça peut aller, mais pas en jus de fruits. Enfin, ça fait partie presque d'aliments à dédiaboliser pour moi. Et comme ils étaient diabolisés, ça rentrait dans la catégorie sucre.
Sucre.
Bon, bah, moi, je préférais manger un carré de chocolat qu'une pomme, quoi.
Eh ben oui.
Quoique les pommes, j'en ai soupé à ne plus en pouvoir. C'était peut-être le seul fruit qui est à peu près habilité, mais en tout cas, plutôt que certains fruits ou un jus de fruits. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai retrouvé, en sortant de la restriction cognitive, un plaisir et des envies de fruits que je n'avais pas du tout avant. Chose hyper intéressante, par exemple, dès que je suis malade, j'ai des grosses envies, notamment en hiver, d'agrumes. Quand je sors d'une séance de sport, c'est le seul moment où j'ai envie d'une orange pressée. C'est pas trop mon truc d'habitude, mais c'est peut-être le seul moment. Et ben, je me la fais, mon orange pressée. Et je suis pas en train de me dire, ah, quand même, c'est pas vraiment des fibres. Tu enlèves tous les fibres, tu enlèves les vitamines.
Ben oui.
J'ai envie de mon orange pressée, bon sang.
C'est ça.
Au final, je dois me le faire 3 fois dans l'année. Enfin, pourquoi est-ce que je me suis pris la tête avant à m'interdire une orange pressée? Pour en revenir sur les fruits et légumes, j'ai pas eu ce truc de plus du tout en consommer. Mon challenge dans le processus, c'était d'accepter d'avoir aussi des repas où il n'y a pas du tout de légumes.
Mais oui.
Sans déjà les faire, sans me rajouter une entrée ou un truc, et ne pas culpabiliser d'avoir ça.
C'est
ne pas être en panique en me disant, au prochain repas, tu manges qu'une salade.
Oui, c'est ça.
Donc, du coup, pour moi, le processus, il a été très différent par rapport à ça. Mais ça a été quand même important pour moi vraiment de m'en affranchir. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est mal compris dans le processus.
Oui.
C'est que c'est pas que l'alimentation intuitive est anti-nutrition, pas du tout. C'est juste que, pour une bonne partie des gens qui souffrent de TCA, en tout cas c'était mon cas, la nutrition ne devient plus une information, c'est plus de l'information nutritionnelle, ça devient des injonctions. Et le problème c'est que, en fait, la nutrition, ce sont des informations, pour certaines contradictoires.
Oui, en plus.
Qui évoluent, parce que bah, derrière il y a de la science, et que la science, elle évolue au fil des recherches. Au fil des modes aussi, un peu, hein, sur la nutrition, au fil des cultures. Et du coup, bah, si on prend ça comme des injonctions, on finit par être complètement perdu. Tout acte alimentaire finit par être très compliqué. Typiquement, cette illustration de « Ah, il faut manger 5 fruits et légumes, mais pas trop de fruits. »
C'est
ça. Dire, quand on en est à stresser de manger un fruit, je trouve qu'on atteint un niveau grave. Et moi, je trouve que les professionnels qui continuent à avoir ces discours-là, ils devraient sérieusement se poser des questions. Est-ce qu'on veut que les gens mangent des fibres, des vitamines et des produits peu transformés, des produits de bonne qualité, ou est-ce qu'on veut qu'ils mangent moins de produits sucrés? Enfin, il faut se positionner à un moment. Quand on entend 5 fruits et légumes par jour, à qui ça vient l'idée de penser que tous les jours, ils vont manger que des fruits et pas de légumes? C'est débile, en fait.
Oui, oui. Oui, et puis je repense à ce que tu disais tout à l'heure, de encore faut-il avoir les moyens
de
manger. C'est quand même énorme, 5 fruits et légumes par jour. Hein. Déjà, je trouve que c'est un challenge, même quand on a les moyens. Mais qu'actuellement, c'est compliqué.
Certains jours, je trouve que même en quantité, c'est assez énorme. Autant, mais oui. Je trouve qu'en hiver, quand on fait des soupes, pense que tu prends ton bol de soupe, t'as limite tes 5 légumes, en termes de portions. L'intersaison, c'est peut-être le pire. Quand t'as plus trop envie de soupe, que t'as pas encore vraiment les salades, bah, ça peut être des gros volumes. Hein. Ouais. Il y a des jours où moi, je trouve que c'est pas forcément facile de courir derrière.
Non, c'est clair.
D'où l'intérêt aussi ces jours-là, de pas culpabiliser si ce qu'on se prend, c'est une orange pressée, en fait. Bah, y a plein de vitamines si on la boit rapidement.
Et rappelons-nous ce que nous disait Amélie dans un des épisodes du podcast, Amélie Carlo-Chichou, qui est diététicienne, quand elle parlait de la nutrition bienveillante. Cet équilibre alimentaire, il se fait sur une vingtaine de repas, je crois. Donc, même si pendant toute une journée, voire deux, on ne mange pas de légumes ou de fruits, et que notre transit le supporte, où est le problème, en fait? Donc, j'aime bien quand tu dis que le TCA va transformer la recommandation, l'information, en règles, en injonctions, en rigidité, en fait, desquelles on n'arrive plus à se sortir. Et qu'une grande partie du travail de thérapie est de revenir flexibiliser, en fait, ça, au niveau, en tout cas, de la nutrition.
C'est ça. Et je trouve que... Enfin, moi, j'ai le sentiment aussi, quand je discute avec des mangeurs intuitifs, mon mari, par exemple... Lui, il a vraiment toujours pris la nutrition comme une information. Donc, ça fait partie des gens qui sont capables de dire les sodas, c'est toxique, tout en sirotant un soda.
Oui.
Et de tenir un discours vraiment alarmiste tout en profitant vraiment de son soda. Chose qui, pour moi, ça m'interpellait beaucoup quand on s'est rencontrés. C'est quoi cette dissonance-là qui est impossible. Enfin, moi, c'était impossible dans ma tête de TCA. Je pense que je pourrais commencer à le faire maintenant. C'est ça qui est rigolo. Et... En fait, depuis que ça va mieux, c'est vraiment redevenu de l'information. Et cette information nutritionnelle, elle ne va jamais à l'encontre du besoin que je ressens et de l'envie que je ressens. C'est-à-dire que quand bien même j'ai pas mangé de légumes au repas du midi et que le soir j'ai très envie, j'en sais rien, pâté à carbonara, une pizza, quelque chose qui va pas être très riche en légumes, si j'en ai vraiment envie et que je ressens que mon corps, comme je te dis, le transit va le supporter, que c'est pour des bonnes raisons, mais je vais le faire et c'est pas grave. Encore une fois, on mangera des légumes. Je sais très bien, en fait, je panique pas, parce que je sais que l'envie de légumes, elle reviendra sur le prochain ou le repas d'après.
Mais oui.
Et je me dis pas, mon Dieu, c'est catastrophique.
C'est ça.
Et du coup, c'est vraiment ça, c'est que c'est une information, c'est plus une injonction. Donc, de la même façon que, et j'essaye aussi d'éduquer mes filles comme ça, quand elles ont envie absolument d'un produit qui va peut-être être assez sucré sur une prise alimentaire un peu isolée, souvent je leur dis, ok, mais tu manges un fruit avec ou un yaourt ou une compote pour essayer de baisser un peu l'indice glycémique, de mettre un peu d'équilibre. Mais je leur impose pas, en fait. Je dis, et t'aurais pas envie d'un yaourt avec, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant, les enfants... En train de manger, des carrés de chocolat. Si toi, tu sors une pomme, c'est marrant. D'un coup, moi aussi, je pourrais manger de la pomme. Ils sont beaucoup par imitation. Donc, comme quoi, je ne veux pas culpabiliser du tout les parents. Parce que moi, j'ai des filles qui sont plutôt simples avec l'alimentation. Je sais qu'il y a des enfants pour qui c'est très compliqué. Mais le modèle qu'on offre à ces enfants est très important. Dans tous les sens. Ce qui veut dire aussi que si on impose des légumes à ces enfants tout en disant que ce n'est pas bon, ils ne vont pas grandir avec l'amour des légumes.
Non.
Si on ne sait pas les cuisiner, ça va donner moins envie que quand on dit « Ah, ce soir, c'est trop bien, on fait soirée pizza, c'est vraiment génial. Ah là là, on a mangé des légumes toute la semaine, mais là... on fait cheat meal, quoi. Les enfants vont enregistrer ça, en fait. Alors qu'à partir du moment où on peut tout rendre fun. Par exemple, avec ma fille aînée, quand on fait une compote de pommes, on fait dégustation de pommes, parce que souvent, il y a plein de variétés différentes. Et elle adore ce moment-là, et elle me le réclame souvent quand je prends une pomme. C'est « Ah, on fait dégustation de pommes !» Et peut-être que ça restera dans sa tête, du coup, des bons souvenirs de la même façon... que lécher le saladier quand on fait un gâteau au chocolat.
Ah oui.
Et en fait, ça rejoint beaucoup, je trouve, cette croyance qui... Donc là, je sais pas, peut-être que toi, t'as plus fait tes recherches sur le plan vraiment scientifique, qu'il y a que le sucre qui active les circuits de la récompense.
Oui.
Moi, je pense que... Bon, tu vas me dire, une pomme, c'est sucré, mais en fait, il y a du sucre dans presque tous les aliments. Mais en réalité, moi, je pense que quand on associe des bons souvenirs même à la soupe, en fait, les circuits
c'est
de la récompense,
contextes,
ils sont... Ils sont activés, c'est très complexe avec l'alimentaire en fait. Il y a le goût de l'aliment, il y a le contexte, il y a à qui c'est associé. Enfin, Madeleine de Proust, ça pourrait être une soupe aussi.
Je pensais à ça.
Donc, c'est typiquement pour ça que j'ai pas trop envie de parler de tout ça sur Instagram, parce que je sais que j'ai réussi en tout cas à remettre vraiment la nutrition à sa place dans ma vie. Mmh. Et il y a énormément de choix alimentaires que je fais aussi pour des raisons nutritionnelles. Mais ça va être plutôt la question de est-ce que j'achète un légume bio ou pas bio ? Ce qui change en fait rien au goût. Et d'ailleurs, si le produit bio est vraiment pas du tout satisfaisant au niveau gustatif, bah, je vais en chercher un autre. Et s'il y a plein de choses pas bio chez moi parce qu'on aime le goût, etc. Donc là, c'est toujours aussi comment on place le curseur de l'éthique. Ça,
oui,
c'est un autre débat.
Oui.
Je pense que c'est un processus lent.
Là aussi. Hein.
Voilà, ne pas mettre trop de perfection là-dessus aussi, parce que sinon, c'est une charge mentale et financière qui peut être assez énorme. Mais du coup, ça, je sais que c'est des considérations que j'aurais eu beaucoup de mal à entendre il y a quelques années au milieu du processus.
Mais oui.
Parce que vraiment, le jour où j'ai compris que j'avais enfin intégré la nutrition comme une information et pas comme une injonction, je sais pas, comme la météo, en fait. Tu vois, tu sais qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Bon, bah oui, tu vas mettre des bottes de pluie, mais si t'as absolument prévu une tenue et que ça va pas du tout avec... Bah, tu t'adaptes, je sais pas, tu prends un parapluie, tu vas moins sortir. En fait, c'est pas quelque chose où tu vas t'imposer tout le temps ta tenue de pluie parce qu'il pleut et où tu vas t'interdire de te faire plaisir sur le plan vestimentaire avec des choses que t'avais prévues. Tu vas l'intégrer comme une information.
C'est un bon exemple, je trouve.
C'est presque un peu ça, et avec encore plus de bienveillance, je pense, parce qu'au final, si tu sors dans des flaques avec tes jolies chaussures qui prennent l'eau, c'est vraiment loupé pour tes chaussures. D'une certaine façon, c'est plus irrémédiable que de louper les 5 fruits et légumes par jour de temps en temps.
Oui.
C'est pareil avec le rapport au sport. Je suis persuadée que le mouvement, c'est une bonne chose pour la santé. Donc là aussi, encore une fois... une critique qui est très souvent faite à l'alimentation intuitive. Bon, là, c'est aussi des gens qui n'ont pas lu les choses.
Ben
hein, parce qu'il y a quand même un principe sur la nutrition et un principe sur le mouvement. Donc, c'est vraiment des gens qui critiquent sans avoir creusé ce qu'ils critiquent. Hein. Mais c'est vrai que dans un premier temps, dans la guérison, ça peut être bien de prendre vraiment ses distances avec l'activité physique pour qu'elle revienne à sa bonne place. C'est-à-dire que maintenant, je ressens un tel besoin. Par exemple, j'ai pas trop fait de sport ces dernières semaines parce que boulot, parce que... plein de choses, ben là, voilà, les semaines ont été remplies. Mais en fait, j'en ressens pas le besoin mental de « mon Dieu, j'ai pas bougé, mes calories, ou je sais pas quoi. J'ai juste mal au dos, je me sens tendue, je me sens moins connectée. »
Ton corps te le rappelle. Hein.
Exactement.
Ouais.
Et c'est génial de ressentir ça. Mais tant qu'il y a toutes ces pensées, tout ce mental, il nous coupe de notre corps.
Ben oui, tout ce brouhaha.
Et c'est tellement plus simple de retourner au sport. Du coup, je trouve que c'est plus facile d'être régulière aussi. Quand tu ressens le bienfait à chaque séance de sport, et pas au bout de X semaines quand tu vois le chiffre descendre sur la balance ou pas.
C'est ça.
En fait, l'apport, il est immédiat. Tu fais des étirements 5 minutes, tu vas tout de suite sentir que t'es moins tendu au niveau des trapèzes, etc. J'essaye de, par exemple, là, c'est mon nouveau challenge des dernières semaines, de méditer régulièrement, avec flexibilité. Je ne le fais vraiment pas tous les jours. Mais en fait, je commence à ressentir le besoin de me reconnecter.
C'est pas un besoin mental. Je devrais, il faudrait, je l'ai pas fait.
C'est un peu un rendez-vous avec moi-même, en fait, d'une certaine façon, de dire mais j'en suis
de
où,
retrouver
là
ça.
Et je sais pas, je pense que ça, ensuite, ça vient à la même place que si tu sautes une douche ou un brossage dedans, ou tu vas pas te sentir très à l'aise, quoi.
Oui.
Et bon, j'en suis pas encore complètement là sur la méditation. Il paraît que c'est comme ça après qu'on en a besoin comme de prendre une douche. Mais en tout cas, le bienfait d'un moment de méditation, pas à tous les coups, peut être immédiat en fait. Immédiat de juste avoir fait le point et dire « mais en fait là, t'as mal au dos, t'es épuisé, c'est ça ton besoin ».
C'est ça, exact.
C'est une façon rapide en fait de se reconnecter à ses besoins. Par exemple, mes premiers jours de règles, je peux être très fatiguée et puis un peu inconfortable. Aller faire du sport, c'est pas le moment où c'est plus agréable. Enfin, tout dépend bien sûr quel type d'activité physique, mais... notamment aller faire du yoga, c'est pas le plus agréable qui soit, bah, je le fais pas, puis c'est tout, en fait.
C'est ça, et c'est pas un drame, en fait.
Non, en fait, ça n'ira jamais à l'encontre du besoin présent. Alors, de temps en temps, on est un peu à côté de son besoin, et on se dit, après, en fait, j'aurais dû aller au yoga, ça m'aurait fait du bien.
Oui, mais là non plus, c'est pas grave, en fait.
Exactement. J'ai repris la danse. J'ai fait beaucoup de danse étant jeune.
Oui,
c'était de la danse classique.
Tu nous l'avais dit dans le premier épisode.
C'est plutôt quelque chose qui a été compliqué.
Ouais.
Ça a plutôt fait le lit des TCA.
Oui.
Donc, j'ai repris pas de la danse classique, c'est de la danse contemporaine. Et grand plaisir à redanser, c'est absolument génial. Bon, bah, il y a des fois, j'arrive à mon cours de danse en me disant « mais je vais avoir l'énergie de rien aujourd'hui ». Et c'est très surprenant, limite, c'est au moment des sauts que l'énergie revient le plus.
Et oui.
Alors que c'est la chose la plus cardio et la plus fatigante. Donc oui, de temps en temps, pour le mouvement, il faut un petit peu avoir de la discipline, se mettre un pied aux fesses.
Mais plus on avance, plus on arrive à jauger ce moment-là.
C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais,
il faut se laisser du temps pour être capable de ressentir le moment où on a vraiment besoin de repos. Et puis, bah, y a des loupés.
C'est ça, et c'est pas grave. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous dire, si toutefois c'est le cas, pendant ces 3 années, s'il y a eu des grandes étapes ou des moments marquants dans ce processus, ta grossesse, la naissance de ta fille, ou que ça n'a rien à voir avec ça, enfin, est-ce qu'il y a eu des moments clés ?
Alors, je pense qu'après qu'on ait discuté ensemble, donc j'étais au tout début de ma grossesse, j'étais encore dans la partie très active de la thérapie. Et j'ai vraiment eu l'impression, dans mon processus de guérison, d'aller petit à petit enlever des couches du millefeuille des TCA et finalement revenir petit à petit à la racine. Et il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, on arrive à la racine du rapport au corps. De la difficulté avec le corps. Et alors là, pas de peau, c'est tombé au début de ma grossesse. Ça a vraiment été un peu compliqué. Sur mes 2 grossesses, j'ai perdu du poids que j'ai repris après, dans l'année qui a suivi l'accouchement. Ça a fait ça pour les 2. Et j'ai un peu cru que pour la 2e, c'était peut-être l'alimentation intuitive et que j'allais faire partie de celles qui, en faisant l'alimentation intuitive, allaient perdre du poids. Bah non, au final. Ou alors, pas maintenant en tout cas. On verra bien comment ça évolue, mais en tout cas, non. Donc, ça n'a pas été simple non plus de reprendre du poids, alors que j'avais fait tout ce processus. Mais en tout cas, j'étais au début de la grossesse. J'avais perdu du poids, je commençais à prendre du ventre. Je savais très bien que ce ventre, c'était le bébé.
Oui.
Je l'avais déjà vécu une fois.
Oui.
Et je le vivais mal. Je vivais mal mon rapport à mon ventre. C'était très étrange d'être complètement en décalage entre l'intellect et l'émotionnel. Et puis, bah, comme quoi, souvent, il faut se confronter le plus aux choses pour dépasser. Je pense qu'à la fois, le travail a aidé. Ça a été grandement dépassé au moment où mon ventre a complètement poussé. Alors, pour le coup, j'ai pris du ventre beaucoup plus tardivement sur ma 2e grossesse que la 1re. Ce qui n'est pas très logique. Peut-être parce qu'il y avait peut-être un petit blocage intellectuel, j'en sais rien. Mais bon... Au 6e mois, mon ventre a triplé de volume. J'ai pris genre 7 kilos en 1 mois ou quelque chose comme ça. Et cette étape a été franchie. Mais ça a été un peu compliqué. Même là, tu vois, j'ai presque un peu oublié. Je me rappelle que ça a été compliqué.
Oui.
Et je n'aurais pu vraiment t'expliquer qu'est-ce qui était compliqué, tellement ça me semble absurde. Mais c'était compliqué. Et je suis revenue de vacances, c'était l'été. J'ai vu une sage-femme de remplacement parce que la mienne n'était pas là au mois d'août. Et puis, on me fait monter sur la balance. Quand on est enceinte, on se fait peser quasiment tous les mois. Et c'était, vous avez pris 7 kilos, vous êtes un peu lâchée pendant les vacances. Et alors que c'était une inquiétude, finalement, 1 mois plus tôt, là, ça m'a mais rien fait. J'avais presque envie d'éclater de rire. Je me suis dit, bah, ça veut dire quoi se lâcher? J'en sais rien, en fait. J'ai mangé, quoi. J'avais faim, j'ai mangé. J'avais pas faim, j'ai pas mangé. Et j'en avais rien à faire, en fait. Je savais très bien que ces 7 kilos, c'était aussi le bébé. Peut-être qu'il y en a eu pour moi, mais c'était la grossesse. Enfin, j'ai presque vu aussi toute la culture des régimes qui était dans ce discours de cette sage-femme. Et j'ai une distance énorme. Et c'est peut-être aussi d'autres situations où j'aurais peut-être eu du mal à répondre. Et où là, ça n'a même pas été difficile de lui répondre. Genre, je ne sais même pas ce que ça veut dire se lâcher. En fait, ça ne me parle pas,
oui,
quoi.
Oui.
Et ça l'a un peu décontenancé. Du coup, elle était en mode, bon, bah, je ne sais pas, surtout plus. Ça pouvait être aussi que c'était pas la même balance. Il y avait plein de choses qui font que tout est à relativiser.
Ouais.
Ça, ça a été une étape. Bon, ensuite, j'étais en fin de grossesse, j'ai été plutôt concentrée là-dessus. Le postpartum a été une autre étape quand même assez intéressante parce que je pense qu'en fin de grossesse, j'avais perdu en fait tout ce poids. Je pense que j'étais sans doute en dessous de mon poids d'équilibre. Et alors, pour le coup, j'ai eu une dalle après avoir accouché. Et notamment, j'allaitais. L'allaitement n'était pas simple. En plus, le premier mois a vraiment été compliqué, mon premier mois de postpartum. J'ai mangé une quantité de chocolat matin, midi et soir. Je pense qu'il y avait presque une tablette qui passait par jour. Fallait le suivre au niveau budget. Et c'était intéressant d'observer que l'envie ne partait pas.
Oui.
Que ça passait nickel, j'avais pas de problème de transit, etc. Et que je ne culpabilisais pas. Et je me suis dit, mais heureusement que je me prends plus la tête. Parce que sinon, je sais pas, enfin, je me l'interdirais, du coup, je ferais des compulsions. Là, c'était un peu un non-sujet et hyper intéressant. Quand l'allaitement s'est calmé, j'ai commencé à faire de l'allaitement mixte au 2e mois. Et l'envie, en dessous de 4 tétés, l'envie de chocolat est passée.
Eh ouais, c'est marrant.
Je pense vraiment que c'était un besoin calorique. C'est ça aussi, c'est que quand on allaite, on ne sait pas toujours quand on va manger. De temps en temps, t'apprêtes à t'installer à table et là, ton bébé pleure. Ou ton aîné a besoin absolument de toi parce que tu ne consacres déjà pas beaucoup de temps. Donc le corps, je pense qu'il n'est pas idiot. Hein. Il te renvoie dans ce temps-là. Bah, écoute, tu vas manger ton carré de chocolat parce que là, je ne sais pas quand tu vas me donner l'énergie.
C'est ça.
Et ça, c'est efficace.
Rapide. Ouais.
Et finalement, j'étais très reconnaissante d'avoir fait tout ce processus et de pouvoir répondre à mes besoins avec autant de simplicité.
C'est ça.
Sans être en train soit de culpabiliser, soit d'être à côté de la plaque. Mmh. Parce que du coup, je pense que ça a quand même favorisé une meilleure récupération physique, mentale. Oui. C'était déjà pas si simple. Ça a été une assez grosse étape. Il y a eu toute une phase où ça allait bien. La première année de Joséphine, ça allait plutôt bien. Et puis l'hiver dernier, donc il y a un an, ça a été compliqué pour le coup. J'avais un peu repris du poids. Ça a été le moment où j'ai commencé à reprendre le poids sans toute fin de l'allaitement.
Et oui.
Je pense que ça a été ça quand même. Et il y a eu beaucoup de retours de restrictions cognitives, de prises de tête.
Ah oui. Et tu as une idée d'où ça venait ? Enfin, qu'il y avait quelque chose en particulier qui venait de souffler à l'oreille ?
Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Je pense vraiment que le postpartum, donc au sens large, le postpartum pour moi, c'est au moins 3 ans. En tout cas, le fait d'avoir des jeunes enfants, je pense que c'est vraiment une période qui est très favorable à une alimentation troublée et à des prises de tête chez les femmes, parce que notre corps change, parce que notre rapport au corps, on est un peu dépossédé en fait, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, notre corps il ne nous appartient pas que à nous, il a une fonction nourricière. Ensuite, on a envie de retrouver un rapport au corps, de se le réapproprier pour soi, il y a l'aspect séduction, enfin c'est... Tous les éléments du corps, sont mis sous tension dans cette période-là. On vieillit aussi au passage. Moi, je vois bien que mon corps... Faut accepter que mon corps, après 2 enfants, il ne sera jamais celui que j'avais avant les 2 premiers. Et c'est pas que le passage des 2 grossesses. C'est juste qu'entre-temps, il y a 6 ans qui se sont déroulés et que c'est une période de la vie où on descend une petite première marche sur le plan de l'âge. J'ai pas encore trop lu de choses dessus, mais je sens que je vais avoir plein de lectures passionnantes. Je remercie mes aînés qui ont réfléchi au sujet. Je pense qu'on va être beaucoup mieux armés que les générations précédentes pour aborder tout ça. Mais du coup, voilà, je vois bien qu'il y a certaines choses qui, peu importe le poids que je ferai, le sport, l'alimentation, mon corps est en train de vieillir. C'est inévitable.
Mais oui.
Donc, il y a tout ça qui fait que le rapport au corps, il est quand même assez compliqué.
Oui.
Là-dessus, c'est très fatigant d'avoir des jeunes enfants. Donc après, ça dépend de l'énergie qu'on met, des enfants qu'on a, le hasard de comment ils dorment la nuit. Moi, j'ai, pour le coup, la deuxième continue à nous réveiller la nuit, là, à 2 ans et demi. Donc, il y a quand même beaucoup de fatigues qui se sont accumulées sur les 6 dernières années. La fatigue, ça n'aide pas à se connecter à son corps, à ses envies et à tomber juste sur qu'est-ce qu'on a envie de manger. Et c'est compliqué. Au milieu de tout ça, on reprend professionnellement. Donc, il faut performer et à la maison et au boulot.
Et au travail.
Bon, tout ça, ça fait que c'est la fameuse charge mentale qui a été assez documentée. Je pense que c'est des moments où c'est compliqué, en fait, de se connecter. Donc peut-être que pour des personnes qui n'ont jamais souffert de TCA, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que pour des gens qui sont en plein TCA, c'est résolu par un contrôle excessif qui est mis et c'est leur béquille.
Oui.
Dans une phase où on a envie que ça aille mieux, on a envie que ce soit plus fluide et où on se retrouve à quelque chose qui n'est pas très fluide. Avec justement aussi toute cette charge que j'ai déjà mentionnée de devoir organiser des repas. Donc là, ça devient plus simple parce que la plus jeune commence à manger vraiment comme nous. Maintenant, je prépare un repas.
C'est pour tout le monde.
Il y a des fois une alternative parce qu'elle boude certaines préparations. Mais bon, globalement, toutes les semaines, je cuis une botte de carottes parce que je sais que carottes et brocolis et coquillettes. Voilà, c'est la base de l'alimentation, des œufs, du jambon. Ça marche à tous les coups. Mais il y a un an, Joséphine, elle avait un peu plus d'un an. Préparer un peu ses repas à elle, fallait nos repas à nous. On avait envie, nous, de retrouver des repas un peu d'adultes. Enfin, fallait presque 3 repas différents pour nous, pour la petite et pour l'aînée. Sans doute que ça m'était une charge. J'avais pas encore pris ce recul de me dire, c'est juste compliqué d'organiser la vie de famille. Et finalement, l'alimentation, ça va être une charge mentale énorme, exactement comme le panier de linge sale, quoi.
Le fameux.
qui se remplit tout seul, malgré la quantité hallucinante de lessive qu'on fait. Et du coup, moi, j'avais eu beaucoup de boulot l'hiver dernier. Ça me prenait quand même beaucoup de temps. Il y avait du stress. Donc moi, je suis universitaire. Là, cette année, je m'occupe que de ma thèse. Donc, c'est beaucoup d'anxiété. Toutes les semaines, tu dois être prête. Tu as des copies à corriger. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu dois être prête pour le lendemain matin. On a enchaîné les virus. Et ça aussi, je me suis fait la réflexion cette année. Tu vois, dans les paramètres qui ont fait que ça a un peu décroché. Quand tu es malade, en fait, tu as moins de goût. L'alimentation, c'est moins satisfaisant. Tu as tendance à aller vers des aliments plus palatables parce que tu veux avoir un peu de plaisir. Donc, à la fois, c'est des moments où je peux avoir des grosses envies d'agrumes, de fruits. Encore faut-il avoir eu le temps d'être allé les acheter. Mm-hmm. Chose que tu n'as pas toujours quand tu cours partout. Il faut avoir le temps de les cuisiner, tout ça. Donc, voilà, ma vie était, je pense, à un moment de grosse tension. Oui. J'avais pas beaucoup le temps pour tout ça. Ça a fait un bon bougui-boulga.
Oui.
Je me suis peut-être fait un peu avoir par certains discours de certaines personnes qui ont pu défendre l'alimentation intuitive et s'en détourner sur un côté de perfection, justement, alimentaire, mais quand on est guéri, forcément, on perd du poids, forcément, on mange parfaitement.
C'est
et être guéri, c'est ne plus jamais avoir envie, finalement, de chocolat, d'une certaine façon. Il y en a certains qui... Ou alors si, on en a envie, mais forcément
du
un
noir.
Carré.
Non, mais et puis du noir.
Du noir, et puis un carré, une fois par semaine.
Et
moi, ce n'était pas du tout ça que je vivais, en fait.
Non.
Et du coup, je pense qu'il y avait tous ces autres facteurs qui, finalement, sont peut-être presque réarrivés de nouveau. J'ai eu mon lot de virus cette année, j'ai eu mon lot de stress, mon lot de tension, avec quand même un peu moins de fatigue que l'année dernière, hein, quand même, la petite grandit. Et il y a eu toutes ces interrogations en plus. Et du coup, j'ai eu un petit retour de restrictions cognitives.
Oui.
J'ai eu presque un peu peur. J'ai recontacté ma diététicienne, on a repris un suivi. Et en parallèle, je suis allée aussi voir une psy pour d'autres raisons. Au début, pas du tout alimentaire, parce que je sentais qu'il y avait d'autres choses liées aussi à la maternité. Et puis, en fait, les deux choses en parallèle ont permis de vraiment réapaiser les choses sur le plan alimentaire. L'hiver s'est terminé aussi, donc les virus, mes courses sont terminées, donc il y a eu un certain allègement. Je pense qu'il y a eu plein de paramètres qui ont fait que ça allait mieux. Et puis, c'est venu consolider, je pense, tout ce discours autour de l'alimentation, autour de qu'est-ce que c'est que la guérison.
Oui.
Je pense que je me posais beaucoup la question de est-ce que je suis guérie, est-ce que je suis pas guérie. Et si je suis guérie, mais que je reprends du poids, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, fondamentalement, va pas, quoi ?
Est-ce que c'est pas raté, finalement ?
Voilà. Oui, ou est-ce que je suis pas en train de me voiler la face ? Et donc ça, ça a été quelque chose que j'ai retravaillé avec ma diététicienne, en fait, de... Elle m'a assez vite rassurée en disant « mais ça va quand même mieux, c'est pas dramatique là !» Et puis de reparler finalement de cette histoire de guérison qui, je pense, est en fait plurielle. On va peut-être tous aller sur quelque chose de différent.
Oui.
Parce que l'acte alimentaire, il est aussi très différent en fonction des personnes,
mais
en
oui,
fait.
C'est
on
ça.
Peut y mettre en fonction de ce à quoi on aspire dans la vie, du métier qu'on exerce, de la phase qu'on a dans notre vie, plus ou moins d'énergie. En fonction de ce qui est plus ou moins important. Je comprends parfaitement, par exemple, que des sportifs de haut niveau contrôlent énormément leur alimentation. J'aimerais bien qu'ils ne viennent pas dire que c'est bon pour la santé.
Oui, et que c'est ce que tout le monde devrait faire.
Exactement.
Mais oui.
Je pense qu'être sportif de haut niveau, ce n'est pas quelque chose de bon pour la santé. D'ailleurs, ni la quantité de sport qu'ils font. On fait plutôt des choses pour essayer de maintenir le corps à peu près en bonne santé au milieu de tout ça. Et il y a énormément de sportifs de haut niveau qui souffrent de TCA. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui ont pris la parole ces dernières années. Donc, c'est ce discours qui est à mettre compte. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut plus de sportifs de haut niveau. Je comprends complètement que certaines personnes fassent ces sacrifices et mettent ce contrôle-là parce qu'il y a autre chose qui les guide dans la vie. Moi, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Moi, mon métier, c'est de faire du droit international. Et c'est là que j'ai envie de mettre mon énergie. En termes de valeur, autant je veux bien mettre mon énergie sur des choix éthiques au niveau alimentaire parce que ça a du sens pour moi. Mais du coup, ce n'est pas manger light. Mes choix éthiques, c'est manger des produits de meilleure qualité qui vont permettre un modèle agricole, social et climatique et écologique le plus vertueux possible. Ça, c'est important pour moi et je veux mettre de l'énergie là-dessus. Et typiquement, je comprends aussi que pour certaines personnes, peut-être le look, etc., ce soit quelque chose de très important. Et je comprends d'ailleurs, parce que j'ai un placard très rempli, j'aime beaucoup... m'habiller, etc.
Oui, c'est passé aussi par les vêtements.
Ça a peut-être été de se réapproprier certaines choses suite aux grossesses, avec le changement d'âge, un réajustement un peu féministe au milieu de tout ça. Ça aussi, ça bouge beaucoup. Mais au niveau des valeurs que j'ai, c'est important pour moi que ça ne prenne pas non plus trop de place dans ma vie, le côté apparence. Je culpabilise pas non plus de mettre un peu d'énergie dans mon apparence, de dépenser un peu d'argent, de prendre du temps autour de tout ça. Je trouve que quand on prend soin, par exemple, quand on se met du maquillage ou des crèmes pour le visage, on est toujours à la lisière entre est-ce que je le fais parce que c'est agréable à faire, parce que c'est confortable, parce que ma peau, après, est plus hydratée, donc elle tiraille moins, donc c'est agréable, ou est-ce que je le fais parce que les rides, c'est pas bien et...
Ça se ressemble, en fait, tout ça, cette frontière-là.
C'est très, très compliqué de mettre le curseur, et j'ai beaucoup tâtonné avec ça aussi ces dernières années. Et là, je pense que c'est pas quelque chose d'important pour moi. Je pourrais aussi être quelqu'un où c'est capital dans ma vie de peser 10 ou 20 kilos de moins, et je mettrai l'énergie là-dedans. Mmh. Et peut-être, du coup, que d'autres personnes arrivent réellement à mettre ce contrôle-là de façon saine, comme ils disent. Mmh. Chez moi, ça ne marche pas. Mettre du contrôle, c'est pour moi l'autoroute vers les TCA. Mmh. Donc pour moi, ça ne marche pas. Peut-être aussi simplement parce que vraiment, je ne suis pas destinée à peser 20 ou 30, oui, je ne sais pas combien de kilos de moins. Mais je sais maintenant que la barrière, elle est aussi intellectuelle. Ce n'est pas la quête que je veux mettre dans ma vie. Mmh, donc en fait, si je mets de l'énergie là-dedans, je serai en conflit de valeurs. Donc je mettrai une énergie sans la mettre. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi de mettre de l'énergie dans le fait de m'accepter. Et ça demande de l'énergie, certains jours, de s'accepter. Mmh. Et je trouve ça plus constructif aussi pour mes filles. Je pense que ça, d'avoir eu deux filles, je me sens une responsabilité. Je ne veux absolument pas, je pense qu'elles auront déjà assez de challenges avec la société qui nous entoure. Je ne veux pas, moi, être responsable de ça en plus. C'est-à-dire que je veux ni, bien sûr, leur tenir des propos qui pourraient les conduire à se dévaloriser sur tous les plans, d'ailleurs, mais en tout cas sur le plan corporel, puisque là, on est... parler plutôt des TCA et du rapport au corps. Et je veux pas qu'elles m'entendent me dévaloriser.
Oui.
Donc c'est là-dessus, moi, que je veux mettre mon énergie, parce que c'est ça, être conforme à mes valeurs. Et ça, j'ai vraiment eu besoin de le reverbaliser comme un choix. Mais à la fois de se dire, c'est mon choix, moi, et d'autres ont le droit de faire un choix différent, et pas c'est le choix pour tout le monde.
Oui.
À quel moment la société nous laisse le choix, en fait?
Oui. Oui.
À quel moment est-ce que réellement les deux modèles sont proposés comme parfaitement alternatifs?
Et oui.
À la limite, être blonde ou brune, je veux bien qu'aujourd'hui, les deux sont relativement valorisés de la même façon. Mais sur le poids, c'est complètement biaisé. Mais en tout cas, que certaines personnes aient envie de mettre de l'énergie là-dessus, c'est leur choix, c'est leur parcours, c'est leur vie. C'est pas le mien, c'est ma décision. Donc là, c'est un peu par l'intellect à ce niveau-là. Oui. Ça manque aussi davantage peut-être l'orientation que je prends et d'accepter aussi que du coup, dans la société dans laquelle on vit, et aussi parce que peut-être le parcours n'est pas terminé, bah, y a des moments où c'est des efforts encore aujourd'hui. C'est-à-dire que de temps en temps, moi aussi, malgré tout le chemin que j'ai parcouru, bah, y a des jours où je ne me trouve pas terrible. Là, j'avais mes règles la semaine dernière, je me suis fait avoir par... le gonflement un peu du ventre avant les règles, je me suis dit « Oh, mais t'as pris mais tellement de poids, mais t'es serrée dans tous tes vêtements, mais c'est la cata !» Alors forcément, pendant quelques heures, même si c'est beaucoup moins qu'avant, tu pourrais sentir la restriction cognitive revenir.
Oui.
Et puis après, t'as la semaine de règles qui passe et tu fais
« Eh ben oui !»
Il n'y a rien, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais justement, tu te rends compte que ton corps, en tout cas, dans la perception que tu as, tu ne perçois pas ton corps de la même façon à 3 jours d'écart. Donc, ça fait prendre beaucoup de recul, en fait.
Mais oui. Et encore une fois, ça ne dit rien de « est-ce que je suis guérie ou pas ?» En fait, c'est quelque chose de... J'allais dire de normal. Ça ne veut rien dire de normal. Moi, je pense que l'estime qu'on a pour nous et l'acceptation de nous sur tous les plans, y compris corporels, elle est variable, en fait. C'est comme si le Graal, ce serait d'être à 100% au taquet tous les jours, je m'aime inconditionnellement, je me trouve formidable et tout ça. Ben non, enfin moi, il me semble que ça n'existe pas, en fait. Voire même, ce serait peut-être un peu pathologique. Mais n'empêche que notre estime de nous, elle est fluctuante. Et c'est normal. Là où ça peut être problématique, c'est si ça vient générer de la souffrance, en fait. Ou si ça nous met dans des situations qui vont générer de la souffrance. Mais voilà, l'estime de nous et y compris donc l'appréciation corporelle, l'acceptation corporelle, bah, elle va être fluctuante parce que nous ne sommes pas la même personne aujourd'hui que demain, qu'avant-hier, que dans 3 jours.
Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, je rajouterais si ça génère de la souffrance de façon un peu prolongée.
Oui,
c'est-à-dire
exact.
Que je pense que la baisse d'estime, réellement, elle génère de la souffrance.
Oui, tout
mais
à
si
fait.
Mais si c'est de temps en temps,
oui.
Et que bah, ça a été un peu compliqué à négocier pendant quelques heures ou quelques
c'est
jours,
ça.
Ou même quelques semaines, mais qu'ensuite tout va bien.
C'est
le problème,
ça.
C'est quand ça revient de façon très répétée, ou quand c'est de façon très prolongée, et que bah, ça nous mine le moral, quoi. Et... je pense que beaucoup de personnes traversent ces phases où on est... Et d'ailleurs, quel que soit le poids, hein, c'est
oui,
ça
mais
qui est intéressant.
Complètement.
Même des personnes qui ont un corps très normé, où moi, c'est le genre de corps que j'aurais toujours rêvé d'avoir, en fait, ont des questionnements, y compris corporels.
Mais oui.
Donc, je pense que c'est important de prendre du recul. Et ce que je trouve intéressant, que j'ai observé... une pensée intrusive, en fait, si tu dialogues avec elle, elle va penser que c'est
elle
intéressant.
Prend... Oui, oui, oui.
Et si tu dialogues pas avec la pensée intrusive de genre, quand t'as pris du poids, vraiment, c'est pas terrible, il faudrait que tu te mettes au régime. Si finalement, tu parles pas avec elle, elle finit par revenir. Et en fait, moi, je trouve vraiment que moins je mets d'emphase et d'intérêt à mon corps, à quoi il ressemble, bah, moins je me pose de questions, en fait.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est ça qui est, je trouve, peut-être difficile à négocier, c'est comment est-ce qu'on fait pour se regarder le matin dans la glace, si on a envie de se maquiller, de se mettre de la crème pour le visage et de se coiffer, sans pour autant commencer à avoir des pensées autour du poids. J'ai pas vraiment la réponse à ce jour. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Mais ce que je remarque, c'est le fameux body neutrality que certains revendiquent, plus que le body positif, c'est de dire, en fait, la question, c'est pas de dire j'ai un super corps. Et moi, je suis pas contre le body positif. Je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes dedans. C'est un courant qui est très multiple, donc je comprends les critiques qui sont faites à l'égard d'une partie du courant et puis de certaines personnes qui utilisent la chose à des fins marketing de façon très douteuse. Body positif pour vendre des yaourts 0% ou des régimes, je suis très sceptique. Mais je comprends vraiment ceux qui disent que ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, en fait, body neutrality, c'est pas le corps est pas important. Le corps, c'est hyper important, on l'habite, mais l'apparence du corps, on s'en fiche. Et plus je me dis ça et plus je me dis que ma valeur elle réside vraiment ailleurs, et encore une fois ça c'est par rapport à ma vie, à mes valeurs, aux choix que j'ai fait et professionnels et personnels, l'apparence des gens dans la vie c'est un truc que je ne trouve pas très important et je ne veux pas que ce soit quelque chose d'important.
Oui.
Et moins j'y prête d'attention. Le cerveau il fait le travail tout seul en fait. Il faut être vigilant de temps en temps pour bien les pensées, elles reviennent. Par contre, il faut un peu les pousser.
Jeanne, je vois qu'on va devoir se quitter. Avant qu'on ne se quitte, donc, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu trouves importante à partager ?
En fait, j'ai vraiment l'impression que la différence sur les trois dernières années, c'est vraiment cette acceptation que j'ai eue que chacun avait son chemin. Donc, je dis pas complètement faites-vous confiance, parce que je pense que c'est compliqué, parce que quand on est dans les TCA, il y a plein de gens, et moi-même, j'ai dit non, mais tout va bien, alors qu'en fait, ça n'allait pas bien. Bon, je pense qu'il y a des comportements qui, objectivement, ne sont pas sains, ne serait-ce que pour la santé physique, genre trop se restreindre, ou vomir après les prises alimentaires. Non, on n'en va pas bien dans ces moments-là, et il faut pas se faire confiance si on pense qu'on va bien dans ces moments-là. Mais le curseur de la guérison, je pense qu'il est vraiment assez propre à chacun. Encore une fois, je pense que le plus important pour moi, c'est de bien se faire accompagner. Et si on a des interrogations, des doutes, il faut aller en parler avec, de préférence, le bon professionnel de santé. Il y en a très bien, qui sont très bien formés, qui prennent très bien en charge aujourd'hui. Et je pense que, à la fois, il ne faut pas être trop perfectionniste. L'acte alimentaire, ça reste quelque chose qui est très fluctuant. Voilà, même les mangeurs intuitifs tombent à côté de la plaque et mangent trop par moment et commandent un truc au resto et après ils font « Ah, en fait, j'aurais dû commander comme toi ». Donc, ça peut pas être parfait, mais en même temps, typiquement quand il y a encore de la souffrance ou du doute, bah, je pense qu'il faut se faire accompagner pour être guidé vers le point d'équilibre où on va se sentir libre, en fait.
C'est ça.
Et ça, je pense qu'il est propre à chacun parce que ça touche à quelque chose de très intime, en fait, au milieu de tout ça, encore une fois, tout ce qu'on a mentionné, quoi.
Mais oui.
La vie, le métier qu'on fait, la famille qu'on a, l'entourage, le mode de vie, son parcours, les valeurs, ce vers quoi on va, d'où on vient, d'où on va. Et je pense que c'est important de ne pas se laisser enfermer dans les discours de gens qui vont venir dire « Non, mais c'est forcément ça, et si tu fais ça, c'est que t'es pas guéri. » Et moi-même, je pense que j'ai pu tenir ce discours à certaines personnes, et j'en suis désolée d'ailleurs. C'est ça que je trouve compliqué aussi, parce qu'il y a des comportements qui, par moment, chez les proches, doivent alerter et où on peut aussi faire des remarques en disant « Mais là, t'es sûre que tu te sens bien ?»
Oui.
« Avec ton jeûne intermittent, et c'est marrant, t'as l'air d'avoir un peu faim. » Mais en général, les gens expriment, en fait, qu'il y a quelque chose qui va pas. Genre « Ah, j'arrive pas à me contrôler autour des chips, j'arrive pas à me contrôler autour... Ah non, j'achète plus de ça, parce que sinon, je vais tout manger. » Typiquement, j'aurais tendance à penser que si on continue à se sentir incontrôlable à l'égard de certains aliments, c'est qu'on n'est pas allé au bout du processus. Maintenant, peut-être que certaines personnes n'arriveront jamais à aller au bout du processus. Donc, s'ils trouvent leur point d'équilibre avant, c'est toujours mieux qu'être en phase aiguë de TCA. Maintenant, si un jour, ils ont envie d'aller plus loin dans la guérison, c'est vraiment possible d'avoir ce qu'on veut dans les placards et de se sentir incontrôlable à l'égard de rien du tout.
C'est ça.
Je crois que je n'ai plus cette attitude à l'égard d'aucun aliment.
Aucun.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aliments que je consomme de façon régulière, mm-hmm. plus régulière que ce que j'aurais aimé peut-être avant. Mm. Mais je ne suis pas incontrôlable. Mm,
enfin, c'est ça.
Bah, ça très rarement,
rien,
en fait.
Ça n'a rien à voir.
Donc voilà, je pense que c'est toujours la même chose. Je pense qu'il faut se faire bien accompagner parce que TCA, c'est quand même des maladies qui sont sérieuses. Quand on a une alimentation troublée et de la souffrance, c'est sérieux aussi. Il faut se faire bien accompagner et aller trouver son point d'équilibre à soi. Et donc, trouver aussi des thérapeutes qui vont être capables de prendre tout ça en considération. Pour ça que, typiquement, les diététiciens qui sont à un coin de table font un plan alimentaire sans poser de questions, de mode de vie. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Il faut quelqu'un qui va pouvoir prendre en considération toute la vie.
C'est ça.
Et ensuite, bah, dans le processus, on apprend à prendre confiance parce que la vie, elle va évoluer et que l'équilibre va être différent au fil des années. Et ça, c'est accepté aussi. Donc, je ne sais pas si je suis guérie ou pas. Je vais bien et je suis persuadée que tout ça, ça va continuer à évoluer, à se décanter, à être observé. Qu'il y aura peut-être des phases où ça sera tendu de nouveau et peut-être des phases où ça sera encore mieux et peut-être que je reperdrai du poids, que j'en regagnerai et on verra bien.
Oui, je te sens vraiment sereine là, hein, sur la suite en tout cas.
Pour le coup, je pense que j'ai plus vraiment peur de vraiment retomber dans les TCA. Je pense que je peux avoir un peu peur de la restriction cognitive qui me mènerait à manger peut-être un peu au-delà de mon rassasiement. Mais bon, c'est pas très grave.
Oui, et puis tu la vois.
Oui, et j'ai plein de pistes en tout cas pour essayer d'être... Mais je crois que j'ai plus du tout peur de vraiment retomber dans les TCA. Et je continue à trouver ça intéressant, en fait, ce processus d'acceptation. Enfin, pour moi, il y a... Ça va vraiment bien au-delà de l'alimentation. Enfin, d'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent, les personnes qui font de l'alimentation intuitive, c'est marrant, il y a quand même beaucoup de femmes, plus que d'hommes. Et que souvent, ce sont des personnes qui sont très féministes. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus global d'interrogation sur, sur le rapport au corps de façon plus globale. Donc, on a parlé aussi du fait de vieillir, la maternité, mais toutes les autres injonctions, le maquillage, la façon de s'habiller. Donc, pour moi, ça a vraiment été... Je ne sais pas si j'ai pas forcément changé beaucoup de choses, en fait, ni dans ma façon de manger, ni dans ma façon de m'habiller.
C'est ce que tu disais déjà il y a 3 ans.
Mais c'est une autre façon de le faire, en fait.
C'est ça.
C'est pour d'autres raisons, en fait.
Ça ne part pas du même endroit.
Exactement.
Bon, et puis je retiens aussi ce que tu nous as dit de ne pas hésiter à se faire accompagner d'une manière générale, mais à se faire re-accompagner. Hein, quand tu nous as parlé de ça, du fait que quand tu as senti que c'était plus difficile, bah, tu n'as pas hésité. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile.
Voilà. Peut-être quelques semaines, mais je n'ai pas hésité trop longtemps.
Parce que ce n'est pas toujours facile hein, de se dire « Quoi ? Comment ? Mais j'ai à nouveau besoin d'un soutien. Comment ça se fait ? Oh, il peut y avoir une espèce de forme d'orgueil ou je ne sais pas quoi. » Alors, c'est pas toujours facile, mais ça me semble indispensable d'arriver à passer ce cap, quoi. Hein, donc,
enfin, de toute façon, c'est la même chose où qu'on soit dans le processus, que ce soit la première fois qu'on contacte quelqu'un. En fait, si on se sent perdu, il y a des gens qui sont là pour accompagner si on en a le temps, parce que ça prend un peu de temps.
Oui.
Les moyens.
Les moyens. C'est pas, c'est coûteux.
C'est coûteux et c'est pas pris en charge. Il ne faut pas hésiter, en fait. Et c'est la même chose, d'ailleurs, pour des personnes peut-être qui écouteraient et qui se disent « Non, mais moi, je n'ai pas de TCA, c'est juste que je fais un peu attention. » Et puis, c'est vrai que bah, j'achète plus de Nutella parce que quand j'achète le pot, je le mange. En fait, s'il y a de la souffrance et qu'il y a de la dévalorisation et qu'on se pose la question de « Est-ce que ça ne pourrait pas s'améliorer ? Est-ce que j'aurais pas besoin d'aide ?» Allez consulter. Et puis, vous savez quoi, si en fait vous n'avez pas besoin d'aide, vous restaurez 2 séances.
Oui, et puis c'est
ça. Vous aurez perdu 2 fois 2 heures, quoi. C'est pas très grave.
Le professionnel vous le dira aussi.
Exactement.
Hein,
et au moins, vous serez rassuré.
Ben oui.
Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on ne retourne pas forcément. J'ai déjà un peu oublié le rythme que j'ai pris, mais. Et puis en plus, là, sur les 3 ans, il y a vraiment eu plusieurs fois où j'ai recontacté ma diététicienne, on a refait des pauses. Mais ce n'était pas forcément de se revoir toutes les semaines, en fait. Il y a des moments où ça a été plutôt on se voit une fois par mois, parce qu'on est quand même beaucoup plus autonome.
Oui, c'était un étayage, en fait.
Mais en fait, ça vaut tellement le coup.
Bah,
en fait,
oui.
En fait ça vaut quand même tellement le coup d'être libre sur le plan alimentaire. Et ça, quand même, mais... Il y a des moments, voilà, j'oublie vraiment ce que c'était que souffrir de TCA. Et puis, de temps en temps, j'ai des piqûres de rappel où je me dis à quel point c'est simple. Ou alors, je vois des gens qui se prennent la tête et je me dis... Oh, mais c'est tellement génial, en fait. C'est tellement génial. justement l'allègement que ça fait autour, encore une fois, de l'acte alimentaire qui est contraint par plein de choses, de ne pas se rajouter ça, c'est quand même trop bien, de ne pas se prendre la tête, de prendre plaisir, parce que c'est quand même hyper agréable de manger, et quand même, en France, il y a des tonnes de choses délicieuses à manger, c'est quand même trop bien, quoi. Donc vraiment, cette liberté, elle en vaut la peine. Ça vaut vraiment le coût de l'investissement et en temps et en argent, si on peut se le permettre. Bien sûr, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des choses plus contraintes et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui mettent du contenu disponible gratuitement, parce que je pense que ça les aide à cheminer un peu. Mais je serais aussi très favorable à ce que tout ça soit un peu plus pris en charge par la sécurité sociale.
Ou qu'il y ait plus de structures publiques, en fait, qui proposent des suivis.
Mais que les diététiciens et psychologues ne soient pas pris en charge par la sécurité sociale, il y a quand même quelque chose. C'est juste parce qu'on n'a pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Mais on ne prend pas vraiment la santé mentale au sérieux. Et les TCA, on ne les prend pas au sérieux. Alors que ça touche quand même en tout 20% de la population.
Ouais,
je crois
que
si on met
énorme.
Tous les TCA bout à bout, je crois que c'est plus que la dépression. Autant que l'obésité,
chiffres,
je mets des guillemets.
Oui.
Alors, quand on voit toutes les campagnes et tout le matraquage qu'il y a, comme si c'était le truc dramatique, mais en fait, il y a autant de personnes qui souffrent de TCA et on n'en parle jamais. Ben alors que les deux sont liés et que peut-être que ça serait plus efficace de lutter contre les TCA et qu'on observerait peut-être pas beaucoup moins de personnes grosses, mais en tout cas moins de personnes grosses en mauvaise santé. Parce que les TCA, ça aide pas à prendre soin de sa santé, quel que soit le poids qu'on a.
C'est clair. Un Donc vaste ça sujet serait, encore.
Ouais,
hein.
Ça, c'est si je, quand j'aurai terminé ma thèse, que mes filles seront un peu plus grandes, j'aimerais vraiment bien pouvoir, dans une structure ou une autre, pouvoir participer à ça, essayer d'être dans la prévention et militer un peu pour plus de reconnaissance et qu'on parle plus des TCA. Mais pour l'instant, j'ai pas.
Chaque chose en son temps.
Exactement. Et je n'ai pas trouvé de structure où je peux y aller. Et je veux vraiment attendre d'avoir pris bien du recul. Ça viendra peut-être quand mes filles vont un peu grandir aussi. Mais j'ai deux, trois choses en tête que je pourrais... Il y a des formations quand même. Mais j'aimerais bien m'investir dans la prévention.
Bah, hâte de voir ça. Alors, on se reverra...
J'espère que ça pourrait arriver.
Peut-être dans quelques années, si le podcast existe toujours.
Voilà, j'aimerais parler de la prévention des TCA chez les jeunes. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup pouvoir me rendre utile... sur ce sujet-là. Mais peut-être que là, ça me fait du bien d'avoir une pause.
Oui, aussi.
Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, Jeanne.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt.
Nous voici à la fin de cet épisode 111. Je suis heureuse que le podcast puisse vous proposer, avec le nouveau témoignage de Jeanne, l'expérience d'un processus avec la thérapie d'alimentation intuitive sur le long cours. Comme Jeanne l'évoque dans son témoignage, on en trouve peu encore et cela peut permettre de rassurer sur la pérennité de l'approche dans le temps. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à très bientôt pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir que vous pouvez soutenir grâce à vos dons mensuels ou ponctuels sur notre page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Merci d'avance et à très vite.